buddy, you 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 buddy. Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors de retour, tu commences à galoper, non ?
Je galope pas, mais par contre, je peux lire.
À lire, tu arrives.
Et j'arrive à me traîner jusqu'à Radio Judaïka.
Bon, bienvenue.
Vraiment, je suis très contente. Donc, comme d'habitude, je présente donc les livres traduits du Yiddish. Et voilà, donc un livre qui vient d'être édité. C'est de Jacob Gladstein, « Séjour à rebours ». C'est un récit, c'est écrit récit, traduit du Yiddish par Rachel Hertel, aux éditions L'Antilope. Alors, ce livre est la suite, enfin la suite théorique du premier livre que nous avions déjà présenté, qui s'appelle « Voyage à rebours ». Donc, de quoi s'agit-il ? Jacob Gladstein, qui est né à Lublin en 1896, est parti à New York à 18 ans. Et donc là, c'est le récit de son retour au pays. Pourquoi il revient ? Il revient en particulier parce que sa mère est très malade et sa tante lui a écrit qu'il devait venir à toute allure si jamais il voulait l'avoir encore en vie. Et donc le premier volume qui s'appelle Voyage à rebours. Pourquoi à rebours ? Parce que il est parti et il revient, hein. Donc, il fait partie de ces Juifs installés aux États-Unis qui, donc, entre les deux guerres, font des voyages en Pologne, en Russie aussi, pour aller voir leur famille. Et donc, à ce moment-là, la Pologne est un pays indépendant. Bon, en Union soviétique, c'est peut-être plus compliqué d'entrer parce que c'est déjà, bien sûr, l'Union soviétique, c'est plus la Russie tsariste. Mais en tout cas, en Pologne, il n'y a évidemment pas de problème pour circuler. Et donc, il se retrouve dans le bateau avec un certain nombre de personnes qui font le même voyage que lui pour les mêmes raisons. Là, dans ses jours à rebours, alors comme dit Carole Katzisner, j'arrive jamais à retenir à dire son nom, Carole Kziatznitzer-Matron, qui est une grande connaisseuse de Yehoshua Zinger. Hein, j'avais d'ailleurs présenté son livre là-dessus. Mais elle connaît aussi également très bien Gladstein. Donc, elle fait une introduction à ce livre. Et voilà ce qu'elle écrit. « Nous avions laissé Yash, l'alter ego en prose du poète moderniste Jacob Gladstein. » Alors, Yash, c'est une des abréviations du prénom Yaakov, hein. Jacob, Yankev, Yash.
Mais ça veut aussi dire un alcool.
Ah, Yash.
Nemagleis et le Yash.
Ah oui.
C'est de l'eau de vie.
Ah, peut-être.
Alors, il a envie de s'appeler Monsieur Eau de Vie.
Tiens, voilà.
Donc, Monsieur Schnaps.
Monsieur Schnaps, oui. Une Schnaps idée en alsacien. Donc, en fait, le premier volume s'appelle « Quand Yash est parti » et le deuxième volume, celui que nous allons présenter, ça s'appelle « Quand Yash est arrivé ». Donc, comme dit Carole, nous avions laissé Yash sur un véritable suspense émotionnel lors de la parution du premier volume. Embarqué pour son premier voyage transatlantique depuis son immigration, Yash se préparait à assister au dernier moment de sa mère à Lublin en 1934. Après une traversée de l'Allemagne nazie et de retour dans une Pologne indépendante qui s'aligne désormais ouvertement sur l'extrémisme politique du régime hitlérien. En effet, la Pologne, après une période de démocratie, d'ouverture relative aux Juifs, se referme vraiment dans les années 30 avec boycott des magasins juifs et vraiment une grande souffrance de la population, même des pogroms, la vie devient de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, je viens de relire le livre sur son voyage, tout d'un coup, on apprend pendant le voyage que Hitler est au pouvoir, et il montre bien comment les Juifs sont très très inquiets, et par contre, les autres voyageurs, finalement, ils s'en fichent, quoi. Alors voilà, donc on attendait de voir Yash chez lui, à la maison, en train d'assister peut-être au dernier moment de sa mère. Pas du tout. La surprise est grande en accédant aux premières pages de ce second récit qui déjoue totalement notre attente. En effet, rien n'est repris des événements familiaux qui ont motivé le voyage. Le lecteur peut se demander s'il s'agit toujours de la même histoire. L'ouverture in media res commençant par une scène d'Aga passablement arrosée dans un lieu encore peu déterminé avec des acteurs dont l'identité semble totalement inconnue. Le narrateur à la première personne n'arrivant qu'assez tardivement pour attester la poursuite de son récit. Effectivement, on se retrouve, comme elle dit, donc en fait, on apprend que c'est un lieu de skure. Ensuite, ça a été identifié comme un lieu réel. Là, il ne donne jamais le nom. Hein. Donc, c'est un lieu de cure, il y a des bons repas, il y a une très belle nature où les gens se promènent. Et quand Yash arrive, il tombe au milieu d'une réunion autour d'un homme qui s'appelle Steinman, dont tout le monde boit les paroles, qui est vraiment quelqu'un de très, très important.
Mais est-ce que c'est un milieu juif ?
Oui, alors c'est plutôt un milieu juif, oui, tout ouais. à fait. Oui, mais c'est un milieu juif, bien qu'il y ait peut-être... Alors, est-ce qu'il y a des non-juifs ? C'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis en train de me dire que dans le premier volume, il y a beaucoup de non-juifs hein, dans ce bateau. Mais là, on a l'impression que finalement, c'est beaucoup de juifs. Hein. En tout cas, lui rencontre des juifs. Donc, il rencontre ce Steinman qui est un espèce de... Oui, de gourou, de personnalité très forte, peut-être même un peu un rabbin chassidique, et avec un côté amusant parce qu'il est poursuivi par une femme qui en fait est sa fille et qui n'arrête pas de lui donner des médicaments et de vouloir qu'il aille au lit, etc. Voilà, donc là, une scène avec la fille. Papa à la place, sa fille. Tu veux déjà me mettre au lit ? Je te démolirai. Pas tout de suite, papa, mais bientôt. Aujourd'hui, il a bu un verre de trop et sa santé le paiera, expliqua sa fille à la voisine. L'ennui avec lui, c'est qu'au monde, il offre le soleil et à moi, il réserve les nuages et la pluie. Steinman s'arrêta devant sa fille, levant sa canne. Je te casserai les os par ma vie si tu m'envoies dormir à l'orgue des poules. C'est de l'esclavage. Aujourd'hui, je vais encore me promener dans le jardin, écouter de la musique et regarder les jolies filles. « Qu'est-ce que tu fêtes aujourd'hui, papa ? Il reste à peine 2 jours avant Shabbat pour mener la grande vie. Dans 48 heures, ce sera le Saint Shabbat. » Elle dira « Venez, jeune homme, au nom de Steinman. » Il me prit par le bras et m'entraîna vers le portail du jardin. « Rappelle-toi, papa, je te suis pas à pas. Je ne vais pas te laisser mener la grande vie longtemps. Je te rosserai si tu ne me laisses pas échanger quelques mots avec un ami. » Il leva sa canne sur sa fille âgée, se pencha et lui posa un baiser sur le front. Il enfila la manche gauche de son manteau, porté en pèlerine et s'enveloppa dans l'autre moitié. Il marchait à côté de moi en tournant la tête vers sa fille. Voilà, donc ces relations ambivalentes avec cette fille, et qui est déjà quelqu'un d'assez âgé, qui ne s'est pas marié pour s'occuper de son père. Et il y a une scène amusante aussi où il entraîne donc le narrateur, hein, Yash, au fond du jardin, la fille leur court derrière, elle n'arrive pas à les retrouver. Voilà, donc ça c'est un des personnages importants de ce livre. On va peut-être passer à une musique.
Oui, alors j'ai choisi c'est une compilation de musique klezmer, du vieux monde et de l'ancien monde. Alors là, j'ai pris de l'ancien monde. C'est déjà assez ancien. C'est la compilation date de 2007, mais certains des enregistrements sont antérieurs, puisque c'est de briquet de broc, quoi. Ça vient d'origine très différente. Donc ça, c'est le Amsterdam Klezmer Band et le morceau, parce que c'est de la musique instrumentale, ce n'est pas chanté, s'appelle Immigrant Song.
Вот вам билет с плацкарты. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2, место 15.
мимо нас провожала в эмигранты. Самолеты, поезда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять, не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать, мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу. Колесики стучат, паровоз летит как птица. За полночь уже, но почему-то нам не спится. Все никак не терпится, узнать да поскорее, что для нас приготовила фортуна лотерея. В следующей главе нашей биографии, в новейшей истории на чужой территории. Кому из нас какая достанется роль? Кто будет нищий, а кто король?
Alors, pardon, j'ai dit que c'était instrumental. En fait, c'est une espèce de rap. Qui, oui, il parle en russe.
Hein, c'est, oui, c'est, et c'est un voyage en train, alors que là, nous sommes plutôt en bateau.
En bateau. Mais là, il est,
Là, il est arrivé. Il ne voyage
plus. Il est arrivé.
Plus. Non, après, non, il ne fait pas de voyage en train. En fait, après, il part à Kouzmir, mais dans un, avec une voiture à cheval. Hein, ah, voilà, il ne prend pas le train. Voilà, donc, alors, il y a aussi des passages un peu, oui, oniriques, on peut dire. C'est vraiment un mélange complexe, ce livre, de rencontres, et puis aussi de moments très, oui, un peu étranges. Ben là, je vais vous lire, par exemple, un passage où je crois que c'est un rêve. Donc, je fixais mon regard sur cette scène étrange qui se développait non pas au centre, mais dans un coin. Ce n'était pas la pièce de Pourim que j'avais écrite à 8 ans et que je jouais, vêtue des plus beaux habits de ma mère, pour laquelle mes camarades avaient payé un groche. Alors là, nous voyons que sa vocation est très précoce, hein, sa vocation d'écrivain. Ce n'était pas non plus les chasseurs d'hommes que notre troupe d'amateurs jouait dans un vrai théâtre, la Rousselka, devant un vrai public. J'étais alors dans la loge du souffleur sous une planche de bois. Non, ce n'était pas non plus le serment que nos amateurs jouaient dans le même théâtre après avoir osé inviter pour le rôle principal Esther Rochel-Kaminska, donc la grande actrice de l'époque. Des affiches rouges proclamaient que Rochel Kaminska était la star invitée et le public de Lublin était venu voir une pièce. J'ai raté et profané la fête car, comme l'éternel souffleur de mes camarades qui, je ne sais pourquoi, ne m'ont jamais laissé monter sur scène, j'ai plongé dans le jeu bouleversant d'Esther Rochel au point d'oublier de souffler sa tirade à l'actrice défaillante. Pauvre Estelle Rochel, il a fallu que Ronier, la postière, vienne frapper du pied à la cabine, comme si elle tentait de me tirer d'un évanouissement. Elle me criait en chuchotis, grossier personnage, souffle-lui sa tirade. Voilà, donc, il joue ça, mais ce n'était pas non plus cette pièce-là. Donc là, on est vraiment dans des souvenirs. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on joue. Hein, finalement, je crois qu'on ne saura jamais ce qu'on joue dans peut-être... Si, je dis ça, mais ce n'est pas vrai. Il y a une pièce de théâtre qui se déroule donc avec différents personnages, Bassier, Gnendl. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est un rêve, si c'est un souvenir. En tout cas, c'est un peu long pour un rêve. Voilà, donc il y a comme ça un mélange de choses très diverses. Donc là, il y a toute une pièce de théâtre qui s'intercale dans le récit. Et il y a aussi tout un passage où des gens viennent le voir parce qu'ils savent qu'il vient d'Amérique. Et donc, ils viennent se plaindre de leurs parents, de leur parenté, dont ils n'ont pas de nouvelles. Et donc, voilà, je vous lis aussi un passage de ce genre. « Arriva un juif élégant, de grande taille, à haut front, porteur d'un discours long, ennuyeux, assorti à sa tenue. » Il se tira prudemment une boîte de sa poche comme s'il s'agissait d'un cédra. Voilà l'histoire. La fille est une grande beauté. Quand elle était jeune, on lui courait après. Mais quand les jeunes gens vieillirent, ils ne pensèrent plus qu'à l'argent et elle devint inutile. Ils se détournèrent d'elle les uns après les autres. À la synagogue, il n'y a que des bourgeois. La fille ne dit pas un mot. Le cœur du père saigne comme coupé par 1000 couteaux. À l'époque, on était le haut du panier dans le commerce du bois, mais on tomba très vite. Le bon Dieu prépara le remède avant la maladie. Il envoya le frère de ma femme en Amérique quand il était encore un petit garçon. Au bout de 2 jours, donc, en fait, ce petit garçon est un voyou. Il se fait taper par le concierge parce que le père a demandé au concierge de le taper. Le concierge étant un goy, l'a extrêmement violemment tapé et donc l'enfant est parti. La rumeur courut qu'il s'était converti au christianisme. Il était maintenant le seul fils et il y avait une seule fille, mère d'une fille unique. C'était leurs seuls enfants. Les années passèrent et une nouvelle arriva de la part d'un concitoyen disant que le gars se trouvait en Amérique. Maintenant, sa famille est morte pour de bon. Il ne lui reste que sa sœur. Lorsque nous sommes tombés si bas, la sœur lui a écrit une lettre qui aurait pu émouvoir un dieu goy. Elle l'avait réchauffée et attendrie. Au bout de 4 semaines à peine, une lettre arriva avec un billet de 100 $. Depuis, les centaines de dollars ne cessaient de traverser l'océan. Mais tout comme les dollars étaient arrivés inattendus, ils cessèrent d'arriver. La mère s'est usée les doigts à écrire. Que de larmes elle a mis dans ses missives, que de larmes de ma fille se trouvait dans chaque ligne. Voilà, donc, il n'y a pas de réponse et ce vieux monsieur donc charge, si on peut dire, Yash, de retrouver son fils qui est en Amérique, on ne sait pas où, on ne sait pas du tout comment. Voilà, et là, il y a toute une série de gens qui vont supplier donc Yash de retrouver leur famille, par exemple une femme avec ses 3 enfants, qui a perdu son mari, mais elle a un frère en Amérique et elle demande à Yash de retrouver son frère pour qu'il lui envoie de l'argent. Hein. Il s'agit toujours d'envoyer de l'argent, étant donné qu'on estime que tous les gens qui ont parti en Amérique se sont enrichis et peuvent aider ceux qui sont restés au pays. Et le livre s'achève par le décès de Steinman, qui soudain meurt, comme sa fille l'avait attendu et craint, hein, et comme elle lui avait prédit d'ailleurs, puisqu'il n'a pas du tout fait attention à sa santé. Et voilà maintenant, je vous lis l'extrême fin du roman. D'en bas, on entendit des sanglots étouffés. Vous entendez ? C'est la fille de Steinman, la pauvre, elle est orpheline, la malheureuse. Ni mari, ni enfant, le vide, la pauvre. Il détendit la corde autour de sa taille. C'est en fait un cocher qui a proposé à Yash de le ramener. Il se mit aussitôt à ronfler, secouant toute la pièce de ses ronflements enroués. Il était 2h30, l'aube de l'été polonais commençait à bleuir. Un oiseau dit quelque chose dans son sommeil, puis se tut. J'ai éteint la lumière, le bleu pâle de l'aurore à ma fenêtre tomba sur les 2 valises pleines et ouvertes. Elles étaient les seules choses visibles et reconnaissables de la pièce. Voilà comment se termine ce roman. D'accord. Très divers, très beau. Il y a des moments aussi où il y a des gens qui parlent. On voit tous ces juifs polonais pris finalement dans un mouvement qui commence à être très inquiétant. Hein. Donc il y a une inquiétude qui plane. Et donc ils sont tous, très, très nerveux. Ils parlent beaucoup. Il y en a qui sont bouddhistes, il y en a des sionistes, il y a aussi des mystiques. Ils parlent de Rabbi Nachman de Braslav, par exemple. Il y a une espèce de mélange, de brassage comme ça que reçoit finalement Yash de plein fouet. et qu'il essaye de transcrire dans une écriture complexe. Quoi.
Mmh. Est-ce qu'il est... Il y en a qui veulent émigrer, qui veulent partir pour...
Non, je ne crois pas qu'il parle d'émigration. Non, non, apparemment, tous ceux qui lui parlent restent là, quoi. Ils sont, sont coincés, si on peut dire, en Pologne.
Bon, alors, un autre extrait de, ce même, de cette même compilation qui s'appelle Klezmer Music. C'est les Goyim, mes chers Goyim, qui font là un morceau qui s'appelle Odessa Bulgare. C'est une danse.
Et donc maintenant, des annonces bon, qui viennent un tout petit peu tard puisqu'elles concernent le dimanche 8 décembre où cette émission va être diffusée. Voilà, donc la Viso Strasbourg organise le dimanche 8 décembre à partir de 11h un brunch conférence. Alors, la conférence a lieu à 15h avec Valérie Abécassis qui va présenter et dédicacer son livre « Place des otages ». Mais il y aura également la présence d'un certain nombre de personnes, le professeur El Koubi, le grand rabbin Weil, et nous-mêmes, si je puis dire, moi-même Doris Angèle, Astrid Ruff et Françoise Emmendinger, qui vont présenter et dédicacer des livres. Alors, il y a également un brunch, donc vous pouvez commander le brunch, qui est de 40€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de moins de 13 ans. La conférence, pour assister à la conférence, c'est 5€, mais vous pouvez bien sûr venir simplement pour voir les livres et puis pour discuter.
Les acheter,
puisque nous approchons de Hanouka et même de Noël.
N'oubliez pas.
Voilà, donc nous aurons des livres très variés, Astrid et moi, et puis également Françoise et Mendiger, vraiment pour tous les goûts, on peut dire. Et donc, si vous souhaitez réserver pour le buffet, il faut faire vite. Donc, je vous donne un numéro de téléphone 06 62 04 73 84. C'est d'ailleurs dans le Shabbat Shalom. Vous pouvez regarder. Sinon, comme dit, vous pouvez passer. Donc, c'est là où il y avait toujours la journée du livre de la Viso, c'est-à-dire au CIC Est Wacken, 31 rue Jean Wenger, Valentin. C'est, il y a un parking, il y a le tram E arrêt Wacken ou le tram B arrêt Rive de l'Art. Voilà, donc venez déguster les spécialités des Dames de la Viso et venez voir et acheter nos livres.
Et autre annonce, le même jour, aujourd'hui même, hein, le jour où vous entendez cette émission, dimanche 8, eh bien à 17h30 au Musée Alsacien, je présenterai, c'est déjà la troisième fois, un petit programme qui s'appelle « Lumière de Hanouka », à l'invitation donc, du musée alsacien qui veut ouvrir ses propositions autour des fêtes de fin d'année. C'est plus seulement le bon vieux Noël alsacien, mais c'est également Hanouka, bien que ce soit plus tard. Enfin, Hanouka tombe cette année exactement en même temps que Noël. Donc à 17h30, au musée alsacien, j'appelle ça Lumière de Hanouka. Donc ce sont des chansons et un conte de Hanouka issu de la traduction que nous avons faite, Doris et moi, au fil des fêtes de Shalom Aleichem. Et je suis accompagnée à l'accordéon par Fabrice Kiefer.
Et on vous dit Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
Et merci Thomas.
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.